Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Les nervures d'une feuille et les nervures d'une main humaine se ressemblent et même la texture y est.
Fotem meu tapel. Fils des feuilles. Filius das folhas. Sons of the leaves. Hijos de las hojas.
Ouais, écoutez, je suis un vieux lavanderos qui ramasse de la lavande fine sur des sites sauvages depuis bientôt 30 ans.
Là-bas, c'est beaucoup plus libre, de par le paysage et puis de ce que tu fais. Du coup, c'est très méditatif. T'es avec tout et rien. Du coup, t'es avec ta plante, t'es avec l'air ambiant, t'écoutes.
Et les générations futures, moi j'espère que de plus en plus de personnes seront sensibilisées à tout ce que l'écologie peut amener, tout ce que la nature peut amener, tout en sachant qu'il faut qu'il y ait une véritable osmose entre l'être humain et la nature et qu'il n'y en ait pas un qui prenne le pas sur l'autre et qu'en fait, je pense qu'on peut réussir à faire des choses ensemble sans avoir des recherches de profit, etc. Moi, c'est pas du tout ce que je recherche, quoi. Moi, je recherche vraiment un équilibre de vie, que ce soit pour moi, pour ma famille et puis pour le monde dans sa globalité, quoi.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui au studio Nikita Gouezel, bonjour.
Bonjour.
Nikita, tu es ici pour nous parler d'un film documentaire qui a été projeté lors de ces rencontres de l'écologie au quotidien de cette année 2018, qui s'appelle Lavanderos. C'est un documentaire, on imagine bien, sur la lavande.
Ouais, alors c'est un documentaire que j'ai tourné sur 2 ans, sur 2 saisons de cueillettes sauvages. Avec des vrais cueilleurs, c'est pas des acteurs, c'est un vrai film documentaire, c'est des gens qui font ça depuis... Mon père, ça fait 30 ans qu'il fait ça. Moi, ça fait bientôt 10 ans. J'ai des amis, bon, c'est pareil, ça fait 15 ans qu'on est dans la cueillette de plantes sauvages en général. Et j'ai eu envie d'immortaliser ça, entre guillemets, en faisant un film.
C'est un témoignage d'une vie, d'une culture.
Ouais, je pense qu'il y a beaucoup. Il y a quelque chose qui est clair, c'est que j'ai voulu transmettre quelque chose que mon père m'a transmis. Donc ça, c'est un peu la petite mise en abîme dans le film. On sait pas, tout le monde sait pas que c'est mon père quand il parle, mais le côté essayer de garder en mémoire cette tradition qui est millénaire, qui a plus de 2000 ans, je pense. Et qui existe encore grâce à une poignée de gens en France, quoi. Donc, et dont mon père fait partie depuis plus de 30 ans maintenant. Ouais.
Ça se déroule comment, la cueillette de la lavande sauvage ?
Alors la cueillette, on part dans la montagne, on campe, nous, dans la montagne, on a cette chance de pouvoir camper. On prend une saquette, donc c'est un petit sac qu'on remplit de lavande, on la coupe à la faucille. Certains ici disent dans la région à la serpette, nous on dit à la faucille. Et donc on met cette lavande qu'on a coupée avec respect bien sûr dans notre saquette, puis on met notre saquette dans notre bourra, ce qui est une espèce de grosse toile de jute, une espèce de gros sac à patates mais plat quoi. Et ensuite on range notre lavande là-dedans, on la fait sécher dans les règles de l'art et ensuite on la distille, on en fait de l'huile essentielle pour soigner des gens, mais pas seulement au niveau physique, aussi au niveau plus spirituel, parce que quand on ramasse dans la montagne, c'est pas la même énergie que quand on ramasse à la machine dans une plaine. Quoi.
Ces étapes entre la cueillette et jusqu'à son produit, c'est-à-dire l'huile essentielle, il y en a combien ?
Il y a l'étape, alors du coup, il y a la cueillette qui est bien représentée dans le film. Il y a la cueillette donc, qu'on fait dans la montagne, dans le milieu naturel de la plante. Ensuite, il y a le temps de séchage. Donc ça, ça peut être fait en mare, comme les anciens faisaient, ou alors simplement dans une grange, sur le plancher d'une grange, poser les bourras, bien faire sécher la plante avant pour ne pas la distiller verte, parce que certains la distillent verte et c'est encore une hérésie. Et donc ensuite, il y a ce temps de, donc cueillette, séchage, distillation. Donc ça, on va dire, ça fait trois grosses étapes, quoi.
Alors, si je comprends bien, vous descendez la lavande encore fraîche dans la vallée pour la sécher, hein ?
Alors, soit on la fait... Ça dépend, en fait, parce qu'il y a parfois, il y a des conditions, les orages, par exemple, on ne peut pas les prévoir. Donc, on la fait sécher autant qu'on peut dans la montagne, donc à l'air libre. Et puis, au cas où, enfin, s'il pleut, on a toujours une grange dans la vallée. On est obligé de la redescendre, ouais, de la montagne dans la vallée, ouais, pour la faire sécher.
Et quand vous redescendez de la montagne, vous en descendez combien en quantité? Ça nécessite des véhicules ou vous faites,
ouais,
tout à la main?
Non,
par âne?
Alors on a la chance aussi d'avoir des véhicules, donc en gros une benne de pick-up pleine à ras-bord, bah, on peut redescendre ça après 3 jours à 5-6 cueilleurs, quoi. Mais ouais, c'est des grosses quantités, sachant qu'il faut... Aujourd'hui, à peu près, on va dire 180 kilos de fleurs pour faire 1 kilo d'essence. Quand il y a 50 ans, tous les anciens avec qui j'ai parlé me disaient, dans les meilleures saisons, au meilleur moment de l'année, c'était 1 kilo pour 100 kilos. Donc les rendements ont quasiment diminué de moitié. Donc ça rend le travail presque deux fois plus difficile qu'il y a 50 ans, quoi.
Et ça, c'est dû à quoi ? Au changement climatique ? Principalement ?
Principalement le changement climatique. Après, il y a aussi ce dont on parle moins, donc les usages des pesticides partout dans les champs, les insecticides, la diminution des populations d'abeilles et donc ce qui rend plus difficile aussi la pollinisation de toutes les fleurs, pas que de la lavande, mais je veux dire, il y a ce problème-là aussi, la pollution, qu'elle soit de l'air ou des sols ou de l'eau. Impacte évidemment l'écosystème.
Et la question, c'était aussi les produits sanitaires, phytosanitaires, parviennent jusque dans les montagnes ?
Non, pas. Nous, on a la chance de justement, mais quand même, nous, on a la chance de ramasser dans des lieux qui sont vraiment, vraiment préservés grâce, en fait, aux troupeaux. Grâce aux brebis qui broutent et qui empêchent la prolifération de pins ou d'arbres, de grands arbres. Mais en revanche, c'est vrai que même dans la montagne, malheureusement, il y a des paysans qui continuent à mettre du Roundup, des trucs comme ça, à désherber chimiquement. Et là, en effet, il y a des coins qui peuvent être très sauvages, mais il suffit qu'il y ait un champ de lavande pour qu'il soit pollué. Le sol, après l'air aussi, et du coup, c'est une chaîne, quoi. Donc tout est pollué après.
Je voudrais bien revenir un peu sur les méfaits du changement de climat. Comment agit-il exactement au point de vue de la lavande ?
En fait, la lavande, elle s'adapte très bien aux grandes chaleurs, aux fortes chaleurs, aux terrains arides, plein de cailloux, tout ça. Donc la Drôme, c'est parfait. Mais en revanche, là où le dérèglement climatique, c'est plus le dérèglement que le changement climatique, que le réchauffement, pardon, c'est que, par exemple, au printemps, s'il n'y a pas assez d'eau, elle va pas avoir assez d'eau en réserve pour tenir bien jusqu'à l'été et elle va cramer. S'il y a des fortes chaleurs après, elle va cramer assez facilement. Ce qu'on observe, nous, en tant que cueilleurs et observateurs, du coup, de la nature, c'est que la lavande subsiste, et ça fait bien longtemps, mais surtout dans les endroits où l'humidité est conservée, notamment sous les pierres. Et donc, en fait, une solution pour enrayer cette espèce d'échaudement de la plante, ce serait en fait de réussir à la couvrir de pierres aux racines pour qu'elle conserve son humidité, même pendant les fortes chaleurs. Et donc, ce serait pourquoi pas une solution. Mais bon, ça demande de mettre en place des gens qui trimballeraient des pierres sous tous les plants de lavande. Mais ce serait une solution. Je pense.
Et quelle est la différence entre donc la lavande sauvage et celle qui est cultivée ?
Alors la lavande sauvage donc pousse spontanément dans son milieu naturel, la montagne en général, et la lavande cultivée, donc c'est celle qu'on a choisi de retirer de son milieu naturel pour la planter dans des champs en grande quantité. Et donc celle-là ne pousse pas à l'endroit où elle devrait pousser. Elle pousse là où les hommes ont décidé qu'elle pousserait. Mais ce n'est pas naturel, quoi.
Ça lui nécessite, de l'entretien.
De l'entretien, oui. Si on ne traite pas, si par exemple on va être en bio, on va pas mettre de pesticides sur sa lavande de culture, ce qui est déjà pas mal. Mais en revanche, on peut avoir des gens qui vont même pas biner leur lavande. Et donc, moi j'ai travaillé en bio, c'est pour ça que j'en parle, mais le bio n'est même pas indicateur de qualité en fait aujourd'hui pour les huiles essentielles. Je parle vraiment de la lavande, mais je sais que c'est le cas sur d'autres huiles essentielles. En fait, si la lavande pousse avec du millepertuis, mettons, ce qui arrive souvent dans le même rang, eh ben, la machine elle va pas faire la différence comme un cueilleur entre la lavande et le millepertuis. Elle va tout couper pareil. Donc déjà, elle blesse la plante au moment de la couper, mais en plus, elle prend des plantes qui vont polluer l'huile essentielle au moment de la distillation, parce qu'elles ne se marient pas et que deux huiles essentielles se polluent les unes les autres. Donc aujourd'hui, même le bio, en fait, ça ne veut plus rien dire. Ce qui veut dire quelque chose, c'est d'aller voir un producteur vraiment qui fait ça à petite échelle, à échelle humaine, parce que finalement, les plantes, c'est à échelle humaine, c'est fait pour nous, d'une certaine manière. Et il faut pas, une fois qu'on dépasse cette échelle humaine, aujourd'hui, on arrive à un stade où la mécanisation est un problème parce qu'elle n'a pas notre capacité à trier, entre guillemets, de plantes. Donc,
enfin, ça ne remplace pas la main de l'homme hein, et
oui,
surtout
voilà,
son regard.
C'est ça.
Voilà, c'est ce qui manque peut-être à une mécanisation, c'est un regard. Hein, mais ça va peut-être venir
ouais,
hein, avec
peut-être.
Les progrès technologiques. Mmh. Donc, la cueillette, proprement dite, de la lavande sauvage, vous prélevez combien ?
Alors, c'est difficile pour nous de quantifié, mais on va dire que c'est sûr qu'on va pas tout couper parce qu'il faut en laisser pour la graine, pour les abeilles, pour les insectes. En revanche, nous ce qu'on essaye de faire, c'est de procéder par coteaux. On essaye de bien nettoyer certains endroits et en fait on ne la coupe pas seulement, on l'entretient. On retire la tige florifère et on la taille en forme de boule quoi, pour qu'elle soit plus belle l'année d'après. En fait, le cueilleur, il n'est pas seulement cueilleur, il est aussi, il entretient la montagne, les plantes sauvages de la montagne, quoi. Enfin, c'est une autre vertu des cueilleurs, quoi.
Et ça, c'est une période que vous pratiquez à quel moment ?
La cueillette de la lavande sauvage.
Et puis son entretien, vous le faites dans la foulée, hein ?
Ouais, 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 c'est
et
ça.
Et vous taillez la plante.
C'est ça. En fait, on la taille et on essaye de la couper de manière à ce que nous, on ait la bonne quantité de tiges fleurs et qu'elle, elle est encore, ça, on l'arrache, enfin, on la violente pas en fait, on la cueille quoi. Vraiment, c'est vraiment le mot cueillir. Donc, la période de cueillette s'étend de mi-juillet, on va dire, à parfois, on peut aller jusqu'à mi-octobre dans les belles arrière-saisons parce qu'en haute montagne, elle s'échauffe moins et elle perdure plus longtemps que celle de la plaine, quoi.
Vous parliez tout à l'heure de respecter, enfin du moins de laisser une quantité de lavande pour les abeilles. Est-ce que vous voyez aussi avec les apiculteurs du coin, s'il en reste, hein, parce que je crois qu'elles ont beaucoup souffert, pour justement entretenir un stock de nectar ?
Alors, je sais que nous, en tout cas, comme on n'a pas de contact direct avec des... Nous, on n'a pas de contact direct avec des apiculteurs. En revanche, mon père, à qui j'ai posé la question sur cette disparition des abeilles, m'a dit que c'est sûr qu'il y a 30 ans, quand on mettait sa serpe dans une baillasse de lavande, il fallait un petit moment avant que toutes les abeilles s'envolent. Donc ça pouvait aller jusqu'à 10-15 abeilles par plant tranquillement, mais vraiment tranquillement. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand on cueille dans la montagne, on a beau être dans un milieu qui est sauvage, qui est préservé, et ben, on va avoir 2-3 abeilles par plant. Et ça, nous, on le constate. Même moi, qui ça fait que 10 ans que je cueille, je veux dire, et ben, même moi, ça, je l'ai vu. Même moi, j'ai vu les abeilles disparaître. Et les apiculteurs, y a des ruches dans cette montagne-là, mais c'est vrai qu'il y a énormément de pertes. Il y a énormément de pertes, ouais.
Après, donc la cueillette, le séchage se faisant soit en montagne, bras beau temps, ou en grange dans la vallée. Alors, c'est une étape qui dure combien de temps et qui s'en occupe ?
Le séchage ? Alors, pour le séchage, en fait, nous, on s'occupe de tout de A à Z. Hein. On s'occupe de, enfin, on cueille et puis on va jusqu'à distiller. On n'est pas juste cueilleur et on va faire distiller chez voilà, on est un groupe d'amis, de gens qui se connaissent, qui aiment travailler ensemble et qui et voilà, donc qui font tout de A à Z ensemble. Le temps de séchage, ça peut prendre, on va dire, ça dépend en fait de l'état de la plante. Si elle est déjà un peu sèche, on va dire, on va être fin septembre. Et on cueille encore, bah, elle va sécher très vite parce qu'il y a beaucoup moins d'eau que mi-juillet dans la plante. Ça dépend. En fait, le séchage, ça dépend de s'il a plu la veille, s'il a plu. Parce qu'on ramasse pas généralement les jours où il a beaucoup plu, parce qu'il faut que la plante ait le temps de se réchauffer et que l'huile remonte. Donc, il faut qu'il fasse chaud aussi. Donc, les orages ponctuent beaucoup la cueillette.
Et après, on passe à la distillation. Vous faites ça chez vous, alors ?
Ouais, nous, on fait ça à Chalencon, oui. À la ferme du Bloudon, avec nos amis dont je vous parlais. Et donc on distille à l'ancienne, on distille avec des vieux vases, des vieux alambics de 300, 600 litres. Mais comme c'est des plantes qu'on ramasse pas en quantité astronomique, ça suffit quoi. C'est à échelle humaine encore une fois.
Cette cuisson, elle s'opère comment savoir comment ça fonctionne tout simplement.
Oui, alors bah, en fait on plonge, on met la plante dans un vase.
Un vase qui est en quelle matière ?
En cuivre ou en inox, ça dépend des alambics. Nous, on en a de toutes sortes, mais donc cuivre ou inox. Donc, on tasse la lavande dans un alambic au préalable. Ensuite, on ferme cet alambic. Par en dessous, avant de mettre le panier de lavande, on aura mis un petit peu d'eau qui va s'évaporer lorsqu'on va faire un feu sous cette eau. La vapeur va passer dans la plante. Et ensuite, il y a tout un système de refroidissement avec un col de cygne et tout ça. Et à la sortie, on va avoir un mélange d'huile essentielle et d'eau qu'ensuite on va trier dans une ampoule à décanter. Et ensuite, on extrait l'huile essentielle pure, quoi. Et on la filtre encore une fois avec un filtre hydrophobe qui a peur de l'eau pour qu'il n'y ait vraiment pas de gouttelettes d'eau dans une huile essentielle, quoi. Ça, c'est important.
Et puis ensuite, ça c'est une activité qui permet d'amener un peu d'argent au sein de la famille ou alors on est loin du compte ?
Ben, c'est sûr que si on faisait ça pour l'argent, je pense qu'on aurait planté en rente depuis longtemps et si on voulait du rendement, de la productivité, de l'argent, tout ça, on irait pas spécialement... Dans la montagne avec ce soleil de plomb et tout pendant 2 mois de l'année. Mais en revanche, on y va aussi comme un recueillement. En fait, on y va comme on y va parce qu'on aime ça en fait. On n'est pas simplement dans un tracteur à couper notre. C'est sûr que c'est un travail difficile physiquement, mais qui apporte énormément de bien-être paradoxalement. Même si c'est dur physiquement, mais on en retire quelque chose qui est de l'ordre de l'immatériel et donc finalement. Les peines physiques s'estompent déjà grâce au parfum de la lavande et puis grâce au lieu dans lequel on est parce que on se sent connecté avec tout et c'est là qu'on se rend compte généralement qu'on n'est rien et qu'à la fin on est tout. Enfin, c'est des endroits de méditation quoi. C'est les montagnes, surtout dans la Drôme, c'est magnifique.
Est-ce que tu aurais une idée d'un air ou d'une mélodie, un morceau ?
Dans le film, la BO, en fait, la bande originale du film, c'est Hijos de las Hojas. C'est un groupe argentin et c'est un groupe de rap conscient, je dirais, de rap vraiment conscient, connecté, pour le coup, pas, pas au bling-bling, pas au billet, mais plutôt à la terre, aux plantes, au ciel, à la lune et aux étoiles. Et donc, c'est des... Moi qui n'aimais pas spécialement le rap, en Argentine, j'ai découvert en fait un foisonnement de culture musicale dans un rap, et donc c'était eux. Et avec du didgeridoo, de la guimbarde vietnamienne et des trucs complètement psychés, complètement géniaux. Et ça s'appelle Hijos de las Hojas, et il y a peut-être un titre. El Camino de la Serpiente, c'est le nom de l'album. Mais tout l'album est bon, de toute façon. Il est tellement, tellement flashero, tellement génial que Hijos de las Hojas.
Que Quetzalcoatl vuela dulce vida. Pirámides ocultas huelen el miedo que pasea sonriente entre mi tangible dimensión. Pinta el fin del triple pincer sin ser libre interacción levita. Omnipresencia densa, presa del deseo. Deseo que mis sueños sean marea roja. Y es que se me antoja el sentimiento en hojas. La cuerda floja, equilibrista, tensarla debes. Debes alzar la vista en vista de que al tropezar la tinta fristalea el level sube. Cae la noche. La noche escucha las plegarias convirtiendo el ego en cenizas. La creación se triza y en mi meditación pasión me di cuenta que la brisa suele decir que no puede pedir con voz tenue. La luz del sol nutre los campos de Dios Miener. Guía, guía mi alquimia y aunque quisiera no podría convertir la rima en átomo. Momentáneos momentos, telequinesia traga triángulo de tiza. Vi sangrar a la luna y que el agua fluya. Somos los mares, madera de jade, aleluya. Bunamum, antofo shakushe, ina ina mu ale, duam duam kumelen. Bunamum, antofo shakushe, ina ina mu ale, duam duam kumelen. Bienvenido a mi roca, toma asiento, que te preocupa. Ocupa lupa en tupa, ladar para dar nuevas sensaciones. Oh, bendiciones, no condiciones. Dione, necesidades al material en bruto, en nobles condiciones. Del llanto a la risa, del encanto y aterriza. Alisa la brisa y así guisa. Mis más suaves versos te polinizan. Mi santuario, padre sol sabio. Mundo externo enfermo, material etéreo. Jungla que transmuta con el ser supremo. Me cremo en pleno vuelo, sumergiéndome en el río de los santos prados cielos. Ani, buenos, ina, buenos. Sueños, juegos, legos, pliegos son el material que quemo. Quiero seno, un cebo, mi dedo. Ahora abre la puerta para que nos amemos. ¿Qué es lo que piensas tú? No quieres ver bien, men, se nubla tu conciencia. Debes abrir los ojos de tu alma. Ahí se esconde el poder enorme que te falta. ¿Por qué tan impaciente, guacho? Relaja tu mente, ataja el presente. Encajarán las piezas, gato tú tranquilo. Hay kilos de pescados y suerte enterrados en el patio de la sagrada locura que todo lo salpica, amada aventura. Tú sanarás llagas, liberarás amada bendición que estuvo tanto rato encerrada aquí, dentro de mí.
What up, dog? La magia está en ti.
Lo sé, hermano, es lo que intento transmitir.
Entonces, pon en práctica lo que decís.
Eso intento por hoy, juego al juego del vivir.
Bunamum, antufu shakushe. Ina ina mu ale, duam duam kumelen. Kalfune wen alu alu, mashantu fe. Peute shabat, sharufe. Bunamum, antufu shakushe. Ina ina mu ale, duam duam kumelen. Kalfune wen alu alu alu, mashantu fe. Peute shabat, sharufe.
los atributos del dios y de la diosa del sol, que están muy cerca, la luz de la luna, el afecto, el cariño, el bienestar celestial con el poder mental de muchos músicos del oráculo de barro que emiten fuego, o algo semejante, sin igual, sin igual, sin igual.
De las hojas.
Et puis donc l'idée t'est venue de filmer tout ça.
Ouais.
Et t'avais suivi une formation dans l'audiovisuel ou tu t'es improvisé caméraman ou reporter?
Ouais. Ben en fait j'avais déjà fait des vidéos mais de sport extrême, donc j'avais déjà filmé, j'avais déjà monté, mais rien à voir avec le documentaire. Et donc j'ai commencé vraiment juste avec un pauvre caméscope, vraiment juste avec une intention, une volonté de faire. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est pas d'avoir du matos, c'est d'avoir envie de faire. Et donc ensuite, grâce à cette envie, j'ai fait un financement participatif qui m'a permis de récolter à peu près 2 500 €, une fois que j'avais retiré tous les frais de tout ça, de tous les frais annexes qu'il peut y avoir. Et donc là, j'ai pu me prendre du matos un peu plus propre, on va dire, avec un vrai micro et tout ça. Et donc là, j'ai retourné. Donc en fait, j'ai tourné le film sur 2 étés. Un été où j'avais pas grand-chose de matos, mais où j'avais beaucoup de volonté et où j'ai pris énormément d'images aussi. Et un deuxième été où là, j'avais plus de matériel et je savais plus ce que je voulais dire, plus ce que je voulais faire. Et entre-temps, j'avais fait une formation. Donc le film a évolué en 3-4 temps, quoi. Il y a eu 4 montages différents que j'ai projetés à plein de gens différents et dont les retours m'ont nourri pour les prochains films et tout ça, quoi.
Et ce documentaire, tu serais amené encore à le remonter?
Non,
c'est définitif.
Ouais, là c'est fini, là j'en ai pas. j'ai plus ce petit détail qui fait que j'ai envie de remonter tout de A à Z. J'ai réussi à faire, selon moi, quelque chose qui est équilibré et qui marche, quoi.
La Vente des Roses, hein, c'est une histoire. Enfin, c'est pas une histoire. Si, c'est une histoire joyeuse.
Ouais, oui, si. Il faut vraiment voir le film pour le comprendre, mais c'est une histoire un peu contemplative, un peu dans l'émerveillement de l'instant présent, quoi. Simplement d'être là maintenant et de le savourer pleinement. Et c'est ce que j'essaye de transmettre à travers les images, à travers le montage, le son. J'essaye de mettre en scène le réel, mais sans le dénaturer et en essayant de garder une forme, la poésie qui m'inspire, quoi.
L'essentiel
comme l'huile, ouais.
Et la poésie dedans,
la poésie, ouais, bah en fait j'essaye de donner une dimension poétique grâce à la nature, en fait. Parce que je me suis aperçu que dans les documentaires, l'humain, de toute façon, est très anthropocentré. Il regarde que son petit nombril et puis il se filme entre eux et puis voilà. Ou alors, il va aller filmer les animaux, il va être passionné par les animaux. Mais il n'y avait pas de style documentaire, parce que moi, j'aime les animaux et j'aime les humains. Donc, j'aime tout le monde. Mais j'ai voulu allier les animaux, la contemplation, la dimension contemplative qu'on peut avoir quand on observe un animal sauvage. Et ce côté un petit peu éphémère, un peu insaisissable, avec le savoir et ce que les hommes ont appris des plantes, des animaux, de la nature, et qu'est-ce qu'ils font de ce savoir et comment l'expriment-ils à travers leur profession, leur métier, et donc notamment la cueillette, quoi.
Le cinéma russe, est-ce qu'il t'a influencé, par exemple, sur le cadrage, sur la manière de voir aussi? Puisque souvent, il y a une grande place de la nature dans leurs films.
Ah ouais, non. En fait, moi, je suis pas du tout cinéphile. mais vraiment pas du tout à la base, je veux dire. Quand j'ai commencé, c'était juste pour faire un film. Et puis après, finalement, l'envie de faire un film m'a donné envie d'aller vers le cinéma. Mais c'était pas l'inverse, quoi. C'est le fait de faire qui m'a fait me dire, ah ouais, mais en fait, ça va tellement plus loin que ce que je pensais. C'est pas juste l'image, c'est il y a toute une intention dans le cadre, dans... Et ça, je le comprends encore aujourd'hui, mais je veux dire, c'est pas un truc, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de... Mais c'est une recherche permanente, c'est magique ça. Pour ça, le cinéma, c'est magique.
Oui, mais par rapport à la transmission de ce que vous vivez, qu'est-ce qui a enclenché cette manière, donc, par un documentaire?
Alors, moi,
ça aurait pu être l'écriture.
Oui,
ou...
c'est vrai. En fait, ce qui m'a fait changer de vie, c'est un documentaire. C'est Earthlings, Terrien, la version française, elle s'appelle Terrien. Et c'est un film sur l'exploitation animale, le véganisme et tout ça. Et là, c'est un doc, j'ai regardé 20 minutes et du jour au lendemain, je suis devenu végétarien, quoi. Donc en fait, je me suis dit, ça marche, on peut faire passer des messages avec des films, ça peut être effectif, ça peut avoir un impact direct et vraiment immédiat sur les gens. Et ça peut nourrir une réflexion, un documentaire, ça a cette force de nourrir une réflexion et d'aller vraiment dans la vérité des choses sans vouloir cacher, quoi. Simplement, le réel, il est là, bah, on en fait ce qu'on en fait, mais on en tire les conclusions, chacun après fait ce qu'il veut, mais il y a une sorte de puissance dans la réalité qui n'a pas besoin de mettre en scène, finalement. Bon, on la met un peu en scène parce que, voilà, c'est pour rendre le truc un peu moins chiant, mais la réalité n'a pas besoin de qu'on la fasse exister, quoi. Elle existe par elle-même, et c'est ça qui est magique dans le doc, c'est que on va tourner une scène, on sait à peu près ce qu'on vient chercher, mais on sait pas du tout ce qu'on va trouver. Et généralement, enfin, en tout cas pour moi, ça va toujours au-delà de mes espérances. Si je viens avec une intention, c'est toujours les gens ont toujours cette espèce de magie d'eux-mêmes, en fait, que chaque personne est magique, et du coup, que ce soit un paysan, un cueilleur, quelqu'un qui a l'air de simple, quoi, qui a l'air vraiment sans histoire, tout ça, mais qui peut être passionnant, en fait. Et c'est ce que j'ai compris en faisant ce film, c'est que les gens, chacun à leur manière, ont leur petite magie, et chaque personnage est unique, et chaque personne est unique, et c'est des petites perles, quoi. Tous les gens que j'ai rencontrés, c'est des petites perles, tout ce qu'ils m'ont raconté, ils sont magiques, quoi.
Est-ce que ton regard de cadreur, puisqu'on cadre une image aussi, t'amène à composer ou alors à adapter un mouvement de caméra ou alors une disposition particulière de la caméra pour pouvoir capter l'essentiel?
Ouais.
Et ça nécessite une mise en scène. Ça se pratique donc dans ton travail.
La mise en scène dans le documentaire, moi j'ai découvert ça justement après ma formation à Paris, aux ateliers Varan, je le dis parce qu'ils sont géniaux. C'est grâce à André Van In, c'était un formateur, et l'un des premiers jours de la formation, il nous a dit, on fait pas un film sur, on fait un film avec. Et donc à partir de ce jour-là, en fait, tout a changé pour moi, parce que je me suis dit, mais c'est vrai, moi je suis cueilleur, je le fais avec des cueilleurs, je le fais pas sur eux, je le fais avec eux, pour moi, pour tout le monde. J'essaye de le transmettre au plus grand nombre, mais c'est super important, cette notion de faire avec les gens. Et donc, quand on met en scène avec, on ne met pas en scène sur. Et on fait disparaître cette espèce de faux. Parce qu'une fois qu'on a mis en scène, ce qui se passe dans le cadre, c'est vrai. Et ça existe, et c'est réel. Et ça donne des choses réellement vraies et magiques et spontanées.
Juste. Juste.
Juste. Juste, exactement, oui, le mot, pardon. D'accord. Oui, juste, exactement.
Et voilà. Et donc, tu as proposé en diffusion, en projection, pendant ces rencontres d'écologie au quotidien, tu en as eu des bons retours et on t'a sollicité pour pouvoir le projeter ailleurs?
Alors, pas pour le projeter ailleurs, mais en revanche, j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus me voir, pour la radio justement, et puis aussi pour dire merci, et moi c'est moi qui les remercie, parce que finalement c'est grâce à eux que ce que je fais peut avoir du sens, c'est grâce au public, Et ce qui m'a beaucoup touché, c'est quand les gens m'ont dit que ça faisait du bien d'avoir du silence, des animaux, et que, pas qu'il y ait une voix off dessus, et pas qu'il y ait une musique dessus, mais simplement le bruit de la nature, enfin le bruit, le son de la nature, et l'image simple, quoi, sans artifice. Sans... Et ça m'a touché parce que c'était un petit peu mon petit pari de cette dernière version avec les animaux et les hommes mélangés, c'était d'arriver à faire la balance entre le dialogue, le silence. Je voulais retranscrire le silence de la montagne, de la cueillette, de l'observation des animaux. Et donc, vraiment, j'ai eu que des retours super positifs là-dessus. Et je suis content parce que j'arrive à mettre en scène les animaux et les humains. Et ça plaît. Et donc ça me touche parce que ça fait plaisir que les gens aiment ce qu'on crée, quoi.
Tu avais commencé auparavant un tournage, tu parlais de sport.
Ouais, de sport extrême. Ouais.
De sport extrême qui consistait en quoi ?
Ben, en fait, on se filmait entre potes. Moi, je faisais du BMX, j'avais des potes qui faisaient du skate. Et on se filmait, on faisait des montages, des vidéos où aussi il y a une mise en scène, où aussi il y a un travail esthétique. Mais sauf que, je sais pas, c'est plus trop mon monde. Et j'ai changé vachement là-dessus. J'étais très inconscient sur beaucoup de niveaux, enfin à beaucoup de niveaux. Et puis maintenant, j'essaye de me consacrer plus au bien commun. J'essaye de transmettre, pas de faire que pour moi, mais de faire pour moi et plus que moi. Toujours, maintenant.
Des prochains projets de documentaires, pourquoi pas La Motte Chalancon? Puisque tu vis avec.
Ouais. Bah là, je vis en Bretagne en fait. Je vis en Bretagne. En revanche, j'ai quand même un prochain projet de film qui est avec Evelyne Adam, qui est l'inventrice des Kerter, des petites maisons en chanvre et chaud.
Qui était venue il y a 2 ans ici pour en parler à
D'accord.
la radio. Oui, oui.
Génial.
Elle présentait un stage qui durait 4-5 jours, je crois.
Ok, super. Voilà. Ok, bah voilà, c'est elle, c'est Evelyne Adam, qui est une personne vraiment aussi qui est énormément, enfin qui est pleine de sagesse, et elle m'inspire énormément aussi, et je pense que c'est un exemple pour nous, pour les jeunes, pour les gens qui veulent changer de mode de vie mais qui savent pas trop par où commencer. Bah elle nous a débroussaillé le chemin, elle nous a dit bah déjà il faut commencer par la façon dont on habite la terre, la façon dont on est sur terre, dont on est à la terre, et simplement vivre simplement et dans le respect de la terre. Et donc c'est le prochain projet que j'ai en film documentaire, c'est de voir un peu tous ces chemins de gens, de stagiaires qui arrivent à ce stage et qui se disent bon bah c'est juste un stage, et finalement qui repartent avec une foule de questionnements sur eux-mêmes et sur les autres et sur eux-mêmes au monde et tout. Et donc toute la dimension philosophique qu'il y a derrière l'habitat écologique et respectueux de la terre, ben j'essaye de rendre ça dans un film, quoi. Mais ce sera pas avant un an.
C'est à l'état de projet encore. Hein.
J'ai commencé à tourner, mais je dois avoir que 14 minutes montées, finies. Donc je vais essayer de faire un 52 minutes minimum, 45-52.
Comment ça se passe pour financer un tournage? Tu lances des souscriptions de temps en temps?
Alors j'ai fait donc le premier financement participatif. Il m'a permis d'amortir, on va dire, un peu de matériel, mais sinon tout est à mes frais. Quand je vends voilà des DVD ou voilà mais globalement tout est autofinancé, et sinon j'ai une page aussi Tipeee où les gens peuvent donner de l'argent et tout ça ponctuellement ou on va dire pour une année s'engager à donner 1 € par mois. En fait j'étais un peu utopiste en pensant qu'en mettant mon film gratuitement sur internet j'allais avoir tout le monde qui me donnerait 1 €, et en fait j'ai eu peut-être 3 personnes qui m'ont donné un pauvre euro, donc je les remercie, ces gens-là, je peux vraiment les remercier parce que ouais, grâce à eux au moins je peux me prendre je peux me permettre de continuer. Je me dis il y a quand même des gens malgré tout qui me soutiennent, même si je fais pas ça pour l'argent en fait, mais c'est vrai que il en faut un minimum pour le matos, pour les frais de déplacement et tout ça. Donc oui, je pense que je ferai un financement participatif aussi pour mon prochain film.
Et puis peut-être trouver d'autres circuits hein, de distribution que Internet. Sans gagner des milliers et des cents, ça permet juste au moins, comme tu dis, d'entretenir un minimum de matériel.
C'est ça. Mais ouais, il faudrait que je cherche un producteur ou un truc comme ça, mais le truc c'est que je suis très très individualiste et je fais tout de A à Z, donc du montage jusqu'à voilà.
Des organismes comme le CNC, est-ce que tu as frappé à leur porte?
Non, j'ai pas.
Même avec cet objet que tu as créé, donc la vente des roses, qui est certainement un faire-valoir, non?
Je sais pas.
Au vu des retours que j'ai eus, de la qualité du documentaire, je pense qu'il y a peut-être des possibilités, non? Quelque part.
Sûrement, mais en fait, j'aime pas l'administratif, tout ça. Et comme c'est moi qui fais tout, j'ai pas le temps pour ces trucs-là. Je fais et puis je diffuse et puis voilà. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je fasse dans les règles et puis. Ce qui me gêne avec les organismes comme ça, c'est la censure, en fait. Là, j'ai pu me permettre de laisser ce que je voulais. Et mon père, à un moment, il parle des lobbies du bio. Et je sais que c'est un sujet un peu tabou parce que le bio, on dit que c'est bien, mais en même temps, il y a un business derrière et il y a des gens qui font ça pour la thune. Et donc ça, par exemple, je sais qu'un producteur, il aurait pu me dire, mais ça, tu vois, c'est un peu, voilà. Bon, ça dépend du producteur. Et c'est pour ça que je ferme pas cette porte-là complètement. Mais cette liberté, en fait, elle est importante pour les réalisateurs. Et on n'aime pas, en fait, être bridé. On n'aime pas ça. Si on a un truc à dire, si on est là dans les tripes, c'est qu'on veut. Et quand on est bridé ou quand on nous dit ça, tu vas couper parce que. On n'aime pas. Et moi, c'est pour ça que je fais ça tout seul. Quitte à galérer niveau thunes et tout, j'en ai rien à. Faire, je préfère galérer plutôt que de retirer une minute que je voulais pas retirer dans mon film. Quoi. Mais oui, je pense que c'est possible d'avoir une collaboration avec un producteur et qui se passe très bien. Mais il faut que je trouve la perle rare et qu'elle me trouve et qu'on s'entende et tout ça. Quoi.
Je voulais savoir, lors de ces tournages, tu travailles seul avec ton caméscope ou ta caméra aucune assistance technique en quoi que ce soit.
Non.
Donc tu prends la lumière telle qu'elle est.
Je fais. C'est vrai que les jours où il fait pas beau, tout simplement, je tourne pas en fait parce que la lumière est pas belle et donc je tourne tout le temps quand il fait beau. Et j'ai la chance d'avoir du matos. Aujourd'hui, on a les caméras légères, donc j'ai un appareil photo, un simple micro qui fait à la fois stéréo et canon, donc en fonction de la situation. J'ai un petit filtre pour le vent, j'ai une petite bonnette, voilà. C'est un dispositif assez simpliste, assez minimaliste, mais en fait qui m'oblige à penser la mise en scène très simplement, en fait, parce que du coup j'ai pas de preneur de son qui bouge avec la perche, et du coup je suis un peu obligé de rester sur la personne pour le son avec le micro canon, et faut trouver d'autres idées sur le tourné-monté, au montage, faut penser le film différemment, mais j'aime bien en fait cette contrainte qui c'est un peu comme un jeu quoi, c'est un exercice de style faire avec le minimum ce qu'on a, mais j'aimerais bien avoir un bon preneur de son pour mieux mettre en scène le son, l'image, mais pareil, il faut qu'il y ait une alchimie, il faut qu'on s'entende et qu'on se comprenne sans se parler et tout ça, c'est des trucs ça arrive pas à tout le monde, les bons binômes réels preneurs de son.
Et puis, est-ce que à l'avenir, tu envisagerais la véritable mise en scène avec des personnages dans une action et voire même une fiction ?
Une fiction. Pour l'instant, j'avoue que le documentaire, c'est ce qui me fait le plus envie. Mais je me ferme pas de porte. Même pour des projets expérimentaux, j'ai fait vachement de vidéos aussi, de blagues, de chansons, ça j'ai beaucoup fait, donc en fait je me ferme pas de porte, mais je vais là où je me nourris le plus, et là où je pense que je peux nourrir le plus les gens aussi. J'essaye de transmettre des choses qui, selon moi, pourraient bénéficier au plus grand nombre, quoi. Donc voilà.
des exemples tu parlais de chansons, t'as des exemples concrets?
Ouais, une chanson qui a bien tourné en Bretagne, c'est Viens en Bretagne. On avait un groupe avec un pote, on était deux, un duo, donc ça s'appelait Zizi. Et du coup, on faisait des chansons juste pour rire. Et en fait, ça, sur Facebook, je crois qu'on est. On doit être à 800 000 vues, un truc comme ça, mais c'est des trucs qui tournent parce que c'est con, ça fait marrer les gens. Mais en vrai, maintenant, j'essaye de les faire réfléchir et d'aller au-delà du rire. J'adore l'humour, j'en case à fond dans mes documentaires. Je pense que c'est très important, on apprend beaucoup mieux avec l'humour, mais maintenant j'essaye vraiment de faire des choses qui ont du sens pour moi et que j'espère qu'ils en ont pour les autres aussi.
Est-ce que tu envisages de projeter prochainement La Vendéros dans le Diwa?
Ben, si des gens sont intéressés pour le projeter en ma présence, donc je ferai le déplacement, ce serait avec plaisir. Vous pouvez le voir gratuitement sur internet dans tous les cas, donc si vous le voyez et qu'il vous a plu, vous pouvez en parler à quelqu'un qui vous savez qui pourrait organiser une projection, que ce soit une asso ou quelque chose comme ça. Et sinon, de toute façon, on va dire, ce film là c'est pas ma priorité maintenant, c'est mon prochain film, donc c'est totalement accessoire. Tant mieux si on fait des projections, tant pis si on n'a pas, c'est pas très grave.
Alors quand on parle de projection, tu as tout le matériel pour le faire, hein?
Non.
Ah, c'est bien de. Ouais, quelles sont quelle est la fiche technique d'une projection?
Pour une projection, il faut une bonne paire d'enceintes, un vidéoprojecteur, un ordinateur, un câble HDMI, et voilà. Après, là, je vais recevoir normalement un vidéoprojecteur, mais pas très puissant, mais bon, ça suffit largement pour organiser une petite projection entre quelques personnes. Si ça intéresse des gens, il n'y a pas de souci.
Tu as l'air d'avoir des connaissances en espagnol.
Oui.
Tu as voyagé aussi?
J'ai eu la chance de voyager pendant à peu près 5-6 mois en Amérique latine. En Argentine notamment, où je suis resté le plus clair de mon temps. Et ensuite, j'ai enchaîné avec Bolivie, Chili, Pérou, île de Pâques. Et voilà, je pense que c'est sur l'île de Pâques d'ailleurs que j'ai rencontré un réalisateur. Il s'appelle Vincent Duménil. Et en fait, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais sur cette île, quoi? Parce que je me dis, sur l'île de Pâques, c'est magique. Et il me dit, je suis réal de film documentaire. Et je lui dis, non, mais t'es en train de bosser là, t'es sur l'île de Pâques et tu bosses, quoi. Et il me dit, ouais. Et donc je me suis dit, mais c'est génial ce taf. Et comme j'aimais la vidéo déjà, et comme j'aimais le documentaire déjà, puisque ça m'avait déjà fait prendre conscience de plein de choses, sur l'île, je me suis dit, mais c'est clair que voyager, rencontrer des gens qui nous inspirent, à qui on peut, grâce à qui on peut faire passer des messages qui font avancer le monde et avancer les consciences. Et tout ça, c'est une chance. Et donc, c'est pour ça que je continue là-dedans, en fait. C'est pour voyager tout en... Enfin, découvrir la Terre, découvrir les terriens. Et voilà.
L'émission se termine, hein, l'heure passant. On rappelle, est-ce que tu as un site internet? Je crois que tu l'as déjà dit, non?
Ouais, j'ai une page Tipeee, donc Nikita Ayahuasca sur Tipeee. Et j'ai une page Facebook, Nikita Ayahuasca Films, sur Facebook. Et donc, voilà, là où je poste les bandes annonces. Je fais aussi des petits reportages pour agrémenter, on va dire, et parler des sujets que j'ai pas le temps, enfin sur lesquels j'ai pas le temps de faire un film spécialement, mais qui me tiennent à cœur, notamment la nature et notre école, et des rencontres avec des gens comme Louis Espinassous, éducateur nature et tout ça, et le réseau École et Nature de France. Donc là, là sur cette page, il y a toutes les infos sur ce que je produis et ce que tout ce que je fais, quoi. Je voulais simplement remercier ma famille, ma femme, ma fille, mes parents, tous les gens qui me soutiennent depuis le début, parce que c'est grâce à eux, mine de rien, que j'ai pu projeter à droite à gauche mon film. Donc merci à eux qui me soutiennent et un merci particulier à ma femme et ma fille. Voilà.
Eh bien Nikita, merci d'être venu nous parler merci de ta passion et puis te souhaitons une bonne soirée.
Merci.
Au revoir.
Interview.
Interview.
Okay, the bird.